Bonjour Stéphane Troussel.
Bonjour.
Le Premier ministre a dévoilé hier les mesures choisies par le gouvernement pour répondre à l'augmentation tout à fait considérable des prix de l'énergie. Pas de baisse des taxes, pas de chèque carburant, mais une indemnité inflation. Son montant sera de 100 euros. Elle sera versée à tous ceux dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2000 euros par mois, soit, selon Jean Castex, 38 millions de personnes. Est-ce que vous approuvez cette formule ?
Écoutez, pour les Français qui vont percevoir ce chèque, forcément c'est toujours bon à prendre. Mais de mon point de vue, non, ça ne va pas régler le problème durablement. Parce que finalement, cette mesure, elle est révélatrice de quoi ? D'abord, elle est l'aveu qu'il y a un problème sur les salaires dans notre pays. Parce que si le gouvernement régulièrement doit poser des rustines sur la situation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est qu'il y a un problème désormais sur les salaires dans notre pays. Donc voilà pourquoi il faut engager des négociations salariales. Les salaires sont trop bas. Il y a un problème
sur cette question-là. Aussi un certain nombre de responsables syndicaux.
Deuxième chose, il y a aussi un problème sur la hausse vertigineuse du prix des carburants. Et la réalité, c'est que cette mesure annoncée hier soir, elle ne réglera pas ce problème-là. Comment se fait-il, par exemple, que une mère de famille, je pense à une infirmière, qui potentiellement élève seule ses enfants, qui touche peut-être un peu plus de 2000 euros par mois, qui utilise sa voiture tous les jours, qui parcourt en province des dizaines de kilomètres grâce à sa voiture, qui elle ne va donc pas toucher cette aide. Quand un couple qui gagne chacun 1800 euros par mois, qui vit dans une grande métropole, qui a des transports en commun, parfois gratuits, et qui va toucher cette aide. Donc
c'est le problème des mesures avec un seuil en fait.
Cette mesure, elle ne prend pas en compte cette question de la hausse vertigineuse du prix des carburants. Donc voilà pourquoi, Anne Hidalgo proposait cette mesure exceptionnelle à situation exceptionnelle. D'une baisse massive provisoire de la TVA. C'est d'ailleurs ce que font un certain nombre d'autres gouvernements en Europe, je pense au gouvernement espagnol, mais c'est désormais aussi ce que préconise la Commission européenne. Oui. Et puis surtout, là encore, il faut engager la transition écologique. Elle ne peut pas se faire contre
les plus modestes. Ça, c'est du long terme. Là, on parle de mesures d'urgence.
Oui, mais on ne peut pas en permanence reporter à plus tard.
On est tout le temps au présent.
Il faut des aides massives, là aussi, pour faire que les catégories populaires, les classes moyennes, elles soient incitées massivement à changer leur véhicule.
Oui. Cette mesure va coûter 3,8 milliards d'euros. Une baisse des taxes, c'est pour 5 centimes de moins à la pompe, c'est 2,5 milliards d'euros pour l'État. Donc, est-ce que, en effet, ce choix-là n'est pas plus pertinent tout de même ?
Mais écoutez, il faut savoir ce qu'on veut. Si la bifurcation écologique, elle est nécessaire et elle doit se faire, elle ne se fera pas contre les catégories populaires et les classes moyennes. Or, face à cette hausse vertigineuse et vraisemblablement durable du prix des carburants, il faut réagir. Et cette mesure, elle sera à nouveau en débat dans quelques mois si la hausse du prix des carburants se prolonge.
Une nouvelle disposition a été introduite dans le texte qui prolonge le recours au pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, c'est ça. Elle permettra aux chefs d'établissement scolaire de connaître le statut vaccinal ou les résultats des tests de leurs élèves. Nombreux sont ceux qui, depuis hier, s'inquiètent et dénoncent une brèche dans le principe du secret médical. Est-ce que vous êtes de cet avis ?
Bon, d'abord, cette décision prise par l'Assemblée nationale a une majorité très courte de prolonger ce pass sanitaire. Elle est très contestable d'un point de vue démocratique, parce que c'est une forme de blanc-seing donné au gouvernement qui fait fi de la représentation nationale pendant plusieurs mois et qui fait fi également des échéances électorales. Donc c'est tout à fait contestable. Par ailleurs, je continue de penser que ce pass sanitaire n'est pas une fin en soi. C'est d'ailleurs pour ça que les parlementaires socialistes, moi-même, j'avais plaidé pour une obligation vaccinale qui inclut. Parce que la réalité, c'est qu'il y a toujours des écarts sur le territoire national. La situation de la Seine-Saint-Denis ou d'autres territoires, c'est 15 points de retard par rapport...
Justement, je voulais vous demander, vous n'avez pas rattrapé le retard en Seine-Saint-Denis pour l'instant ?
Nous l'avons, en dépit des efforts des collectivités locales, de l'État, d'un certain nombre de services publics, nous avons progressé. Mais on voit bien que les inégalités sociales de santé, elles continuent de peser. Et donc... Oui, cette annonce, cette mesure supplémentaire pour les chefs d'établissement, oui. elle, il faut la manier avec beaucoup de prudence, parce que oui, c'est un problème par rapport au secret médical, à l'évidence. Mais on voit bien que cette question, notamment du pass sanitaire chez les plus jeunes, moi j'ai une autre difficulté. Le pass sanitaire n'est donc pas obligatoire à l'école pour les mineurs, parce que c'est une activité essentielle, mais par contre ça l'est pour les activités culturelle, artistique ou sportive encadrée dans un club. Et là encore, eh bien, ça conduit un certain nombre de jeunes et de mineurs à se retirer des activités. Moi, les clubs sportifs en Seine-Saint-Denis m'alertent sur la baisse des inscriptions des plus jeunes dans les activités périscolaires.
Parlons un peu d'Anne Hidalgo, qui pour l'instant peine un peu à décoller dans les sondages, elle est autour de 5%. François Hollande a fait savoir cette semaine qu'il voterait pour elle. On peut pas dire d'ailleurs que ses propos témoignaient d'un enthousiasme considérable, enfin il a dit qu'il voterait pour elle. Est-ce que c'est un soutien qui compte pour vous ?
C'est l'ancien président de la République, socialiste, donc c'est toujours important au moment où demain à Lille, elle va rassembler l'ensemble de la famille socialiste, l'ensemble des générations, à la fois Bernard Cazeneuve, Martine Aubry, mais aussi cette jeune génération des locaux, cette équipe de France des maires et des élus qui les Français ont confiance et qui sont autour d'elle pour montrer à la fois sa carrure, sa stature, mais sa capacité avec l'ensemble de ces jeunes générations de la famille socialiste à gouverner auprès d'elle.
Quand vous avez entendu lundi dernier Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, dire « J'espère que notre candidate ira jusqu'au bout », comment vous avez perçu ces propos ? On peut pas dire que ça témoigne d'une grande confiance.
Écoutez, les militants socialistes, ils se sont mobilisés très nettement en sa faveur. Plus de 72% d'entre eux ont choisi Anne Hidalgo. Et donc, elle fait preuve de ténacité.
Olivier Faure a été récemment reconduit à la tête du PS.
Dans les mêmes proportions. Et il a accompagné, il soutient sa candidature, justement. Et donc, je crois qu'elle fait preuve de courage, de ténacité, de sang-froid. Et elle va à la rencontre des Français pour finalement poser les questions centrales qui doivent être celles de l'élection présidentielle plutôt que ce débat politique hystérisé depuis des mois.
Mais justement, puisque vous dites que la campagne s'est engagée sur des thématiques identitaires et liées à l'immigration de manière un peu folle, est-ce que la force d'un candidat ou d'une candidate à la présidentielle, ça n'est pas précisément de parvenir à imposer ces thèmes ?
Oui, et bien c'est bien ce que nous comptons.
Pour l'instant, ça n'a pas commencé.
Vous savez, quand Anne Hidalgo, elle va la semaine dernière à la rencontre d'une sage-femme à l'hôpital de La Fontaine de Seine-Saint-Denis, eh bien, elle ne lui parle pas, cette sage-femme, du débat hystérique posé par un extrémiste de droite totalement à la dérive. Elle lui parle des crises de vocation, des difficultés auxquelles elle est confrontée quand une femme qu'elle a suivie pour sa grossesse à risque, elle est obligée de l'envoyer à 2 heures de là parce que faute de lit et faute de collègues en nombre suffisant. Quand elle va à la rencontre des personnels de l'éducation nationale qui lui disent les difficultés qu'il y a à avoir des agents pour accompagner les enfants en situation de handicap à l'école. Voilà les questions centrales qui doivent être celles de l'élection présidentielle, et voilà ce que Anne Hidalgo entend bien porter, y compris demain à Lille.
Merci Stéphane Troussel.
Merci à vous.